Donc ce matin, on va parler de Marc 10. Est-ce que je peux avoir Marc 10 là sur le... Qu'est-ce qu'il faut faire? J'appuie là. En haut. Ouais, c'est là. Ça marche. Marc 10. Oh, ça en fait trop la fois là. Bon, ça fait rien. Marc 10, le jeune homme riche, c'est l'histoire centrale de ce chapitre. C'est l'histoire d'un jeune homme riche qui rencontre Jésus. Alors, Jésus, il se dirige vers Jérusalem et il vient de passer par le village de ce jeune homme. Tout au long de son chemin vers Jérusalem, ce chemin qu'il conduira vers la croix, Jésus traverse des régions. Et lorsqu'il n'enseigne pas ses disciples, il continue à annoncer le royaume de Dieu aux gens qu'il rencontre et à les enseigner. Et c'est justement ce qui nous est rapporté dans ce chapitre. Jésus enseigne la foule et ses disciples sur les comportements qu'on va dire domestiques. D'abord sur le mariage, tel que Dieu l'a conçu pour l'homme et la femme. Et non comme la société le pratique. Le mariage qui devrait être indissoluble, et ce n'était pas le cas à l'époque, et ça n'est toujours pas aujourd'hui, hein, peut-être moins qu'à l'époque encore. Ensuite, Jésus poursuit son enseignement concernant les enfants. Or, bien sûr, les enfants souvent sont bruyants, on s'en est aperçu ce matin. Souvent, ils dérangent, mais Jésus ne les considère pas comme des quantités négligeables, des quantités qui ne méritent pas qu'on s'y attarde. Il prend du temps pour eux. Bien plus, il en fait l'exemple de la foi, une foi sans malice, sans a priori, une foi sincère. Puis vient la partie que nous allons développer ce matin, l'histoire d'un homme fortuné. Et ensuite, Jésus poursuit son enseignement sur la façon de se comporter dans la société. Ne pas chercher les honneurs, être serviteurs les uns des autres. Tout à l'heure, on a chanté quelque chose là-dessus. Garde-nous tout petits devant ta face, garde-nous tout petits parmi nos frères. C'est ça qu'il développe. Et puis, la fin du chapitre est consacrée à la guérison d'un homme, le fils de Timée. Et on en dira deux mots. Alors, on peut lire Marc 10, versets 17 à 28, donc il y est déjà. « Comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut, et se jetant à genoux devant lui, « Bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Pourquoi m'appelles-tu bon ? Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne tueras pas, tu ne déroberas pas, tu ne diras pas de faux témoignages, tu ne feras de tort à personne, honore ton père et ta mère. » Il lui répondit, « Maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. » Jésus, l'ayant regardé, l'aima. Et il lui dit, « Il te manque une chose. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. » Mais affligé de cette parole, cet homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Alors on dit que c'est un jeune homme. Ça ne nous est pas rapporté là, mais Matthieu le précise. Et puis Luc rajoute, c'était un chef. Donc c'était quelqu'un d'important. Et ce quelqu'un d'important court derrière Jésus. Alors il l'a peut-être déjà entendu parler, ou alors un ami lui a dit qu'un homme de Dieu était là. Toujours est-il qu'il s'empresse pour l'interroger sur ce qui lui tient à cœur. Parce que ça lui tient à cœur, on peut en être sûr, parce que d'abord on le voit courir et puis même s'agenouiller devant Jésus. Et même à l'époque, ça ne devait pas être très courant. Parfois, on peut être comme cet homme. Jésus est passé chez nous. Il nous a parlé durant une soirée, une rencontre ou pendant un culte. Ces paroles, les sentiments qu'elles mettent en route chez nous, nous inspirent une remise en question. Nous sentons qu'il y a là une richesse à saisir, une chance à ne pas manquer. Mais sitôt après, celui qui nous a donné cette impulsion s'en va, il nous quitte. Alors c'est alors qu'il dépend de nous de reprendre nos occupations, ou au contraire de courir après lui, courir pour l'empêcher de s'en aller, pour continuer la rencontre, la relation, un peu comme ont fait les disciples d'Emmaüs quand Jésus voulait partir, ils l'ont retenu. Ce qui tracasse ce jeune homme-là, ça nous tracasse plus ou moins tous, à un moment ou à un autre. Comment faire pour être sauvé? Comment faire pour participer à ce royaume que Jésus annonce partout? Comment être sûr d'avoir part à la vie éternelle? Alors c'est une question qui est peut-être plus proche de l'angoisse que d'une simple question, hein, que va-t-il nous arriver après cette vie? C'est une question qui met en cause notre futur. Alors comment peut-on maintenant, dans la vie présente, aujourd'hui, nous comporter de façon à être agréable à Dieu et hériter dans le futur de la vie éternelle? Et Jésus répond à cette question. Et moi, ce qui m'étonne, c'est qu'il ne répond pas par une parole de grâce, comme don gratuit, ou par un commandement d'amour. Il répond juste par quelques phrases du Décalogue. « Tu ne commettras pas de meurtre. » Bon, ça va encore, on peut s'arranger avec ça. « Tu ne commettras pas d'adultère, tu ne voleras pas. » Bon, en faisant des efforts, ça peut être à notre portée, ça. « Tu ne porteras pas de faux témoignages, tu ne feras de tort à personne. » Tout le monde est d'accord là-dessus, encore que... Hein ? Et finalement, honore ton père et ta mère. Enfin, quelque chose de positif. Jusque-là, tout ce qu'il lui a dit, c'était « fais pas ci, fais pas ça ». Mais bon, ça, en fait, tout le monde le sait, plus ou moins. En plus, typiquement, pour ces commandements, il n'y a pas besoin d'être juif. Ni chrétien pour être convaincu de leur bon sens. Et comme ce jeune homme qui espérait être enrichi par une réponse du Christ, on est peut-être un peu déçu de s'entendre dire des banalités. Parce qu'il n'y a rien de plus là-dedans. Et Jésus n'allonge pas la liste, la réponse s'arrête là. Alors on peut imaginez facilement la déception du jeune homme. Il est peut-être un peu comme nous quand on attend une réponse. Vous savez, quand on a besoin d'un réconfort, ou d'un conseil, ou d'un encouragement, ou éventuellement d'une mise en garde, on ouvre sa belle Bible, au hasard, après une petite prière express. De temps en temps, on découvre une parole qui nous convient, qui correspond à nos attentes. Mais le plus souvent, on tombe sur un texte qui n'a rien à voir. Et bien cet homme-là, il doit se sentir un peu dans cet état. Il a fait un effort, il est sorti de chez lui, il a couru, il s'est mis à genoux, et il a posé la question qui lui tenait à cœur. Et en gros, il a juste ce conseil, « Sois gentil, fais pas le méchant, c'est tout. » Et à ce moment, cet homme-là se trouve devant une alternative. Soit il n'y a plus rien à ajouter, on peut replacer la volumineuse Bible sur son étagère, ou alors il peut insister, et c'est ce qu'il a fait. Peut-être même il s'indigne. Il répond, maître, tout ça, je l'ai fait dès mon enfance. Il a bien raison d'insister, cet homme-là. C'est même apparemment ce qui déclenche l'événement probablement le plus important et pourtant le moins spectaculaire de cette histoire. Comme un petit fait que le spectateur pourrait ne pas voir, mais qui contient en germe l'essentiel de toute relation avec Dieu s'entend. Jésus le regarda et se prit à l'aimer. Alors il serait dommage à ce moment-là de repartir à ses occupations, au moment où Jésus, voyant notre insistance, pourrait donner quelques éléments de réponse aux questions qui nous tourmentent. Après avoir reçu un enseignement général, notre persévérance, notre insistance, nous a préparé à recevoir une parole beaucoup plus personnelle. Une seule chose te manque. En ce qui concerne cet homme qui veut entrer dans la vie éternelle, Jésus a perçu un enthousiasme, une envie de s'engager. Et pour cela, Jésus l'aime. Il aime sa soif de vérité, de justice, sa soif de vie. Mais il voit aussi en lui un rapport de dépendance. En l'occurrence, pour lui, de dépendance à l'argent, à la richesse. Et cette réponse, même si on peut l'entendre pour nous, pour notre compte, le concerne particulièrement, lui. Va, ce que tu as, vends-le. Donne-en le produit aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis, viens, suis-moi. Alors que cet homme pensait trouver un enseignement peut-être théorique, Jésus donne un enseignement un peu plus pratique. Laisse tomber tes efforts, suis-moi. Parce que c'est le suis-moi qui est important dans l'histoire. C'est une invitation à devenir disciple, à prendre Jésus pour maître, unique maître, à laisser tout ce qui pourrait lui disputer cette première place. Si on relit les évangiles, c'est ce qu'ont fait les 12 quand Jésus les a appelés. Et à chacun d'entre nous, il manque. Il nous manque toujours quelque chose. En tout cas, lorsque nous pensons nous comporter de façon à mériter, en nous gardant de tout ce qui est interdit. Jésus, dans cette conversation, montre les limites de la loi et ce que j'appellerais l'économie du faire pour être, ce qui était la lettre de l'Ancienne Alliance. Fais ceci, fais pas ça. Il montre la voie nouvelle, être pour faire. Le principe de la loi de Christ, ce que dit un peu Jacques, la foi sans les œuvres est morte en elle-même. Alors dès qu'on s'adresse à Jésus pour lui demander si le respect de la loi suffit pour entrer dans le royaume, il nous montre ses traces, le vrai chemin, la vraie vie. Je suis le chemin, la vérité, la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Mais ce chemin a un prix. Jésus nous demande de nous débarrasser de toutes les richesses auxquelles nous tenons. Tout ce qui compte à nos yeux, et pour lesquels nous pourrions faire des efforts. En gros, il nous demande de nous débarrasser de tout ce qui nous retient, tout ce qui nous lie au monde, qui nous empêche de le suivre. Pour ce jeune homme, c'était les richesses qu'il retenait. Mais ça peut être tout autre chose. Ça peut être la famille. Luc 14, « Si quelqu'un vient à moi sans me préférer à son père, à sa mère, à sa femme, à ses enfants, à ses frères et à ses sœurs, il ne peut être mon disciple. » Ça peut être aussi ce qu'on considère comme un devoir légitime. Toujours dans Luc au chapitre 9, Jésus dit « Laisse les morts ensevelir leurs morts et toi, va annoncer le royaume de Dieu. » Ça peut être plus que ça. Ça peut être sa propre vie. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix, qu'il me suive. Ça peut être beaucoup plus anodin. Ça peut être ma collection de trucs ou de machins, là, même qui n'ont aucune valeur marchande. Un collectionneur est toujours riche de sa collection. Et nous sommes tous riches de quelque chose. Et cette richesse-là s'accapare de l'énergie dont nous aurions besoin pour suivre le Christ. Parce que ce qui est important pour la vie éternelle, c'est de suivre le Christ. C'est ce qui se passe aujourd'hui, pour aujourd'hui, pas pour demain. Et ne nous trompons pas, c'est pas se sacrifier aujourd'hui pour être sauvé demain. La vie éternelle, ça commence maintenant, tout de suite, aujourd'hui. Et elle se trouve à la suite du Christ, à la suite de Jésus. La richesse de sa vie doit commencer aujourd'hui, pas quand nous serons morts. Sinon, pourquoi Dieu nous laisserait-il ici? Alors la richesse, l'argent, c'est pas forcément mauvais en soi, ça permet de vivre. Ça permet d'assurer les échanges de biens de base. Ça permet aussi d'aider notre prochain. Et on voit dans la lecture des actes au début, comme la mise en commun des richesses était la base de toute la fraternité qui liait la première communauté chrétienne de Jérusalem. Mais dès qu'elles deviennent un but, elles deviennent un peu comme le veau d'or, une idole, un maître. Et vous savez que notre Seigneur ne tolère pas le partage. Il veut être l'unique chef, l'unique patron de notre cœur. Dieu est un Dieu jaloux. Jésus veut notre personne en entier. Il ne veut pas partager. Pas partager avec d'autres passions qui risqueraient de devenir idoles. Il veut que nous l'aimions de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre force, de toute notre pensée. Et ça fait un drôle de programme. C'est pour ça que si nous voulons suivre le chemin de Jésus, on doit d'abord se débarrasser de toutes nos richesses perçues comme un maître et non comme un serviteur. Rien de moins. Et il y a de quoi se faire peur. Se faire peur, c'est un peu ce que les disciples ont ressenti, ceux qui assistaient à la scène. La suite de l'histoire, je ne sais pas si je l'ai mise là. Bon. Voilà. C'est les versets suivants. Jésus, regardant autour de lui, dit à ses disciples qu'il sera difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples furent étonnés de ce que Jésus parlait ainsi. En reprenant, il leur dit, « Mes enfants, qu'il est difficile à ceux qui se confient dans les richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » les disciples furent encore plus étonnés. Et ils se dirent les uns les autres, « Et qui peut être sauvé ?» Jésus les regarda et dit, « Cela est impossible aux hommes. » Mais non, à Dieu, tout est possible, à Dieu. Alors, en parlant du chameau et du trou de l'aiguille, il semble que Jésus faisait référence à un proverbe juif qui voulait expliquer la difficulté d'une chose. À l'époque, dans les murailles, il y avait une grande porte et puis une petite porte pour les passants. Et quand la grande porte était fermée, si on voulait faire passer le chameau par la petite porte, il fallait que le chameau se mette à genoux, qu'il marche sur ses genoux, parce qu'autrement, ça ne passait pas. Et si par hasard, il avait un chargement, il fallait le laisser dehors. Et ça nous montre bien que pour entrer dans le royaume de Dieu, il est nécessaire de se décharger de tout ce qui est sur nos épaules, de nous humilier en reconnaissant notre incapacité d'entrer dans le royaume de Dieu par nos œuvres. Alors, qui peut être sauvé, demandent les disciples. On ne peut pas. Aux hommes, ce n'est pas possible. Mais à Dieu, tout est possible. Alors, en même temps que Dieu exige quelque chose pour que nous méritions notre salut, il nous montre déjà qu'on n'y arrivera pas. Et ça ne retire pas son exigence. Du tout. Ça nous impose de placer notre espérance en Dieu et pas dans nos efforts. Nos efforts, ça permet seulement de réussir dans la vie. Laissons à Dieu le soin de nous faire réussir dans la vie de l'éternité. Alors ce chapitre finit par une autre histoire. L'histoire d'un homme qui n'était pas pauvre, qui n'était pas riche, qui était pauvre, qui était malade. Enfin, il était moins chanceux que le précédent, quoi. Mais cet homme était conscient de sa misère et lui aussi insiste pour rencontrer Jésus. Mais l'issue de l'histoire est toute différente. Jésus lui dit « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» Et cet homme qui était aveugle lui dit « Maître, fais que je puisse voir. » « Va, lui dit Jésus, parce que tu as cru en moi, tu es guéri. » Aussitôt, il recouvra la vue. Et suivit Jésus dans le chemin. Une fois guéri, il suit Jésus. Lui, il n'y a rien qui le retient. Il n'a aucune richesse à défendre. Il est disponible. Et c'est à cela que nous appelons tous à être disponibles pour Dieu. Alors, pour conclure, si on doit conserver quelques éléments de cette histoire aujourd'hui, j'en proposerai trois. Le premier élément, c'est qu'il ne faut pas hésiter à insister. Insister dans nos demandes, insister dans nos prières, si nous voulons vraiment une réponse. Dieu n'est pas un distributeur facile de réponses. Et comme le fait dans la parabole la veuve devant le juge unique, nous devons nous aussi insister. Nous armer de patience, de persévérance. C'est jeudi, patience, patience, patience. La deuxième chose, c'est que Jésus nous demande de nous engager. Il place la barre très haut. Et il la place si haut pour que nous ne les estimions jamais qu'on arrivera à passer par-dessus par nos efforts. Il ne s'agit pas pour autant d'être servile maintenant pour être récompensé dans l'au-delà. il s'agit seulement de savoir renoncer aux choses futiles de notre monde, pour mener une vie basée sur des valeurs sûres. Pour peut-être qu'à la fin de notre existence, nous puissions dire que nous avions suivi le Christ, que notre vie a eu un sens. Puis la dernière chose, c'est qu'il ne sert à rien de faire des efforts pour mériter le paradis. De toute façon, il nous est impossible de mériter quoi que ce soit. Nous sommes limités. Les exigences et les critères qu'il faudrait remplir sont bien trop difficiles à réaliser pour nous. Seul Dieu est capable de nous racheter. Lui qui nous aime avant même de nous faire part de ses exigences. C'est ce qu'il a fait avec ce jeune homme riche. Il l'aima avant de lui dire qu'il fallait qu'il vende tout et qu'il le suive. Et même après qu'il ait été incapable de le faire, vous avez remarqué, Jésus ne dit plus rien, il ne le blâme pas. Sa seule exigence pour nous tous, c'est que nous le suivions. Tout le reste, c'est de son ressort. Et même pour le suivre. Même pour le suivre, nous devons compter sur lui. Par nous-mêmes, nous ne le pouvons même pas. Alors faisons-lui simplement confiance. Comme un enfant fait confiance à son papa ou à sa maman. Amen.